le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous et merci de suivre Radio Kati à Kinshasa sur la 103.5 FM. Tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard de la femme, appel du secrétaire général de l'ONU à l'occasion de la journée internationale de l'élimination de la violence faite à la femme. En marge de cet événement en RDC, une marche des femmes est prévue à Kinshasa, à laquelle participera la directrice exécutive de l'ONU Femmes, la sud-africaine Phumzile Mlambo. Équité et droits de l'enfant, deux concepts évocateurs retenus comme thème lors de la célébration de la journée mondiale de l'enfance cette année. Un groupe d'enfants venus des différentes provinces de la RDC, dans le cadre d'un forum, les décortique dans cette édition. Et puis afflux des Congolais du Burundi vers le territoire d'Uvira dans le sud Kivu, ils disent fuir les troubles politiques dans ce pays d'accueil. Explication dans ce magazine.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Le 25 novembre, le monde célèbre la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard de la femme. Des nombreuses activités ont eu lieu dans plusieurs pays de la planète et se poursuivent jusqu'au 10 décembre 2015. C'est ce qu'on appelle les 16 jours d'activisme. En marge de cet événement, au moins deux faits à retenir en RDC, la participation de la directrice exécutive de l'ONU Femmes à une marche à Kinshasa la semaine prochaine et la publication par la section protection de l'enfant de la MONUSCO d'un rapport sur les calvaires des filles recrutées dans les groupes armés depuis 2009. Le point avec Honoré Misenga Kalala.
C'est avec la publication des rapports sur les filles recrutées dans les groupes armés en RDC que la section protection de l'enfant de la MONUSCO participe aux activités lancées contre les violences faites à la femme. La directrice de cette section, Madame Di Briember, a donné la substance de ce rapport mercredi dernier au cours de la conférence de presse des Nations Unies à Kinshasa.
Pendant la période 2009-2015, nous avons interviewé 7646 enfants qui ont été recrutés par des groupes armés. Parmi eux, il y avait 600 filles. Les 600 filles qu'on a interviewées ont passé entre quelques jours jusqu'à 4 années dans le groupe armé, avec une moyenne de 182 jours. Ça fait 6 mois. Elles ont fait beaucoup d'expériences, elles ont été témoins d'atrocités, des fois elles ont été forcées à commettre des atrocités, elles ont eu des bébés dans la brousse, elles ont eu des bébés qui sont morts, elles ont été violées, elles ont été forcées à être la femme de quelqu'un.
Pour dénoncer ces violences et d'autres que subissent la femme et la fille congolaise, le bureau RDC de l'ONU Femmes compte mobiliser plus de 2000 femmes et jeunes filles dans une caravane à Kinshasa. Caravane à laquelle pourra prendre part Madame Phumzile Mlambo, directrice exécutive de l'ONU Femmes, attendue pour une mission de travail en RDC du 1er au 4 décembre 2015. Pendant 16 jours à partir du 25 novembre 2015, d'autres événements seront organisés en RDC comme dans plusieurs autres pays de la planète pour donner un cachet spécial à la lutte contre la violence faite à la femme.
Nous allons revenir sur la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard de la femme avec une invitée de l'ONU Femmes, bureau RDC.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
L'équité et les droits de l'enfant sont-ils respectés en République démocratique du Congo? Un échantillon parmi une quarantaine d'enfants venus de toutes les provinces du pays ont répondu à cette question lors du forum organisé par l'UNICEF à Kinshasa en marge de la journée internationale de la Convention relative aux droits de l'enfant. Jean-Pierre et Lali Coco les a interrogés. Suivez plutôt cet entretien qui ne manque pas d'intérêt.
Carmen, Laetitia, Ariel et Chabani, bonjour.
Bonjour.
Nous allons faire un petit entretien avec vous sur le sujet qui vous réunit ici, c'est-à-dire ce forum sur l'équité et les droits des enfants. Josie, qu'est-ce que vous entendez par équité?
Je vais prendre par exemple s'il y a deux enfants, une personne qui est de courte taille et puis l'autre qui est plus élancé et qui cherche à voir au travers un mur. Alors le plus petit, on va lui donner quelques tabourets, quelques pierres pour lui permettre de voir à travers le mur, alors que celui qui est plus élancé peut avoir au moins une pierre pour atteindre son but. Donc on est en train d'ajouter quelque chose de plus à celui qui en manque, moins à celui qui a plus, pour que ce soit un partage équitable.
Et Carmen ?
Brièvement, je peux dire que l'équité, en fait, c'est donner à tout un chacun le moyen de réussir. Donc, comme l'a dit ma consoeur, c'est parfois favoriser les plus démunis, les plus faibles, pour pouvoir autant réussir que ceux qui sont dans les meilleures conditions.
Oui. Et Laetitia, tu peux ajouter ?
Comme ils l'ont dit, je veux juste un peu ajouter. Selon moi, l'équité, c'est donner plus de chances à tous les enfants, surtout à ceux qui n'en ont pas, afin que tous voient de la même façon un avenir meilleur pour notre pays.
Ouais, selon moi, en réel, l'équité, c'est donner à celui qui a plus besoin pour que celui qui en est déjà, qui puisse être dans la même dimension, qui puisse être égal.
Et alors, vous pouvez parler un tout petit peu des droits des enfants?
Tout d'abord, rapidement, je définis les droits. Les droits, en fait, sont des règles écrites qui déterminent les libertés et les obligations d'un individu. En fait, l'enfant a plusieurs droits qui sont reconnus notamment dans la Convention relative aux droits de l'enfant, qui est regroupée en quatre thèmes: survie, participation, protection, développement. En fait, l'équité permet à ce que chaque enfant bénéficie des mêmes droits et les mêmes possibilités et les mêmes chances.
Laetitia, tu as ajouté quelque chose?
Parlant des droits, comme Carmel l'a d'abord dit, on ne peut pas parler des droits sans parler de la CDE. Donc, c'est la CDE, la Convention relative aux droits de l'enfant, qui est le document sur lequel on se base plus pour identifier les problèmes selon les quatre thèmes qu'il a énumérés qui concernent l'équité.
Alors, Ariel, qu'est-ce que tu en penses?
Connaissons bien que l'enfant a quelques droits qu'on doit lui l'accorder. Il a droit à la survie, au développement, à l'éducation. Et l'équité aussi permet que ses droits soient respectés et qu'on puisse voir comment prendre les enfants les plus démunis, les enfants vulnérables, et comparer un peu avec les autres qui vivent de la même façon.
On va parler de quelques droits de l'enfant. S'ils sont respectés, ces droits-là, vous les dites. Et s'ils ne sont pas respectés, vous dites pourquoi et qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'ils soient respectés. D'accord? La santé, comment ça va en Mbujimayi?
Bon, la santé, je ne peux pas dire qu'elle est plus évoluée à Mbujimayi, parce qu'on voit qu'il y a moins de structures sanitaires à Mbujimayi. Elles ne sont pas accessibles à tout le monde. On a des coins reculés, puis il y a des érosions.
Il faut parler beaucoup plus de l'enfant, l'accessibilité pour l'enfant à ses soins de santé.
Oui, oui, il y a aussi des coins reculés. Alors, l'enfant ne peut pas bénéficier du bon soin alors que leur revenu financier est vraiment minime. D'abord par rapport aux kilomètres qu'il doit effectuer et puis par rapport à l'argent. C'est vraiment cher, les soins médicaux. Enfin, nous avons des familles nombreuses, disons 10 à 12 enfants, et c'est difficile de les entretenir, c'est difficile de les accorder une bonne santé.
Ouais, un autre droit de l'enfant, c'est l'accès à l'eau potable. Carmel, vous êtes à Kinshasa, vous connaissez le problème? Et les enfants ont droit à accès à l'eau potable ici à Kinshasa?
Bien que Kinshasa soit une grande métropole, on ne peut pas affirmer que tous les enfants ont accès à l'eau potable. Par exemple, dans la commune de Hanzele, les enfants ont des grandes difficultés pour se provisionner en eau potable. Souvent, ils utilisent de l'eau venant de puits qui ne sont pas parfois hygiéniques. Si on voit, par exemple, dans le quartier Kinabwa, beaucoup des enfants vont puiser l'eau à la rivière qui sont polluées par les défécations des animaux, des personnes, et ce qui leur cause plusieurs maladies.
Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ces droits de l'enfant qui est l'accès à l'eau potable soient respectés, selon vous?
Premièrement, on devrait d'abord mettre à disposition des ménages, des enfants, de l'eau potable à travers des robinets. Je dirais un peu plus financer la régie des eaux pour que chaque ménage, chaque parcelle ait de l'eau potable, ce qui permettra d'améliorer considérablement la situation des enfants.
Laetitia, vous qui venez de Goma, parlons d'un autre droit qui est essentiel à l'enfant, c'est le droit à l'éducation. Comment ça se passe à Goma?
En fait, à Goma, c'est pas tous les enfants qui ont accès à l'éducation. D'ailleurs, si on se réfère même à la Convention relative aux droits de l'enfant, il y a l'article 28 qui dit que tous les enfants ont le droit à l'éducation gratuite. Mais principalement dans ma ville, c'est pas vraiment respecté ce droit. Et généralement, dans la province du Nord Kivu, vous voyez avec les guerres qui se sont passées à l'Est, il y a des milieux qui sont inaccessibles et des milieux dans lesquels, quand il y a guerre, les enfants sont obligés de se déplacer. Et quand ils se déplacent, une fois retrouvés dans les camps, voir tous les enfants aller à l'école, c'est déjà rare. Et en plus, quand il y a guerre, les enfants sont enrôlés dans des forces et groupes armés et il y en a qui meurent. Donc je ne peux pas dire que le droit à l'éducation est vraiment respecté dans le Nord Kivu.
Alors, un autre droit, c'est non seulement la protection, mais c'est surtout le droit à l'alimentation, à la nutrition appropriée. Ariel, vous qui venez de l'Ituri, est-ce que les enfants mangent à leur faim là-bas? Et qu'est-ce qu'il faut faire s'ils ne mangent pas à leur faim?
Puis à l'Itourie, bon, je ne peux pas affirmer que la majorité des enfants mangent bien. Bien que les enfants mangent à l'Itourie, mais ce n'est pas la majorité. Il y a quelques enfants qui sont là, comme il y a eu des guerres dans des territoires. Si on prend le territoire de Ndjougou, de Mambasa, il y a eu des guerres. Ce sont des territoires là qui apportent des aliments, des nourritures. Et lorsqu'il y a des commerçants qui fréquentent ces territoires, ils rencontrent qu'il y a des guerres. C'est un peu difficile pour qu'ils accèdent dans le territoire de Djougou.
Vous avez parlé des troubles, vous avez parlé aussi des parents qui n'ont pas assez de moyens. Qu'est-ce que vous proposez pour que les enfants à Nitouri aient accès à ce droit qu'est l'alimentation, une nutrition appropriée?
Sur ça, je veux dire qu'il faut que l'État puisse prendre des dispositions pour arrêter ces guerres qui se passent là-bas. Si on voit bien, ces guerres-là sont en train d'impliquer les enfants. Enfin, on a les enfants recrutés dans les forces et groupes armés. Ce n'est pas bien.
Et alors, Yves, vous venez de suivre avec beaucoup d'intérêt les enfants. Enfants se sont exprimés. Premièrement, vous avez un mot à ajouter, peut-être en guise de synthèse dans ce que les enfants ont dit.
Je crois que les enfants ont résumé d'une manière excellente les enjeux de l'équité. L'équité qui est basée sur un principe de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui est le principe de la non-discrimination. Les droits valent pour chaque enfant, indépendamment de la situation dans laquelle l'enfant se situe. Et, hein, c'est l'obligation de l'État, avec l'appui d'une organisation telle que l'UNICEF, de s'assurer que les droits de tous les enfants soient respectés, que des programmes soient mis en place qui visent en priorité les enfants les plus défavorisés. Défavorisés parce qu'ils vivent dans des régions qui sont défavorisées ou défavorisés parce qu'ils grandissent dans des ménages qui sont défavorisés, qui ont moins de moyens financiers, etc.
Alors, les enfants, Radio Kapi a le plaisir de vous avoir reçu dans son émission Magazine des Nations Unies et Radio Kapi vous dit merci.
D'abord, les droits de l'homme. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé depuis mardi dernier à Bukavu, en collaboration avec le barreau de la ville et du groupe d'experts, un atelier de 2 jours à l'intention d'une 20aine d'avocats du Sud Kivu. Objectif, renforcer les compétences des avocats en matière de pratiques professionnelles et de stratégies d'action dans la protection des victimes et témoins en justice pénale. Autre séance de renforcement des capacités, c'est celle que la section genre de la MONUSCO a procédé le 19 novembre 2015 au profit de 44 éléments de la PNC, dont 4 femmes, pour la prise en compte du genre pendant le processus de sécurisation des élections en RDC, particulièrement en Ituri. Les notions du genre et le cadre conventionnel ont été expliquées aux participants et des actions pratiques à mener au lieu de vote ou d'enregistrement des électeurs et électrices, notamment la gestion des files d'attente, l'escorte, la fouille et les zones insécurisées, surtout pour les femmes. Ces notions ont donc été clarifiées par une meilleure considération pendant les processus électoraux. Enfin, la lutte anti-tabac, pas de loi proprement dite en RDC, mais une proposition de loi qui n'est pas encore adoptée au Parlement. C'est en tout cas le constat fait lors de l'atelier tenu par l'OMS et le ministère de la Santé du 24 au 25 novembre dernier à Kinshasa, sous le thème « Le renforcement de la coordination multisectorielle pour la lutte anti-tabac ».
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Comme annoncé, nous revenons sur la question de la lutte contre la violence faite à la femme, en recevant donc Madame Catherine Odimba et les chargées de programme à ONU Femmes RDC Kinshasa. Suivez plutôt cet entretien avec, une fois encore, Honoré Missenga Kalala.
Madame Catherine Odimba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de programme au bureau ONU Femmes RDC. Nous sommes le 25 novembre aujourd'hui. Cette date est consacrée par les Nations Unies à la journée internationale contre la violence faite à la femme. Pourquoi cette journée, madame?
Cette journée a toute son importance parce que le monde entier, tous les acteurs de développement, les acteurs politiques et sociaux luttent de plus en plus en faveur des droits des femmes. Parce que la femme, à travers le monde, et cette personne qui subit de plus en plus des inégalités en termes de jouissance de droits reconnus à l'ensemble des citoyens du monde.
Donc c'est pourquoi cette journée a été instituée par l'ONU.
Instituée, oui, pour que le monde entier se rappelle qu'il y a des droits à défendre, que le monde entier soit interpellé, que la femme a droit à la vie, la femme a droit à jouir de tous les droits reconnus à l'ensemble des citoyens du monde.
Alors madame, quelles sont les différentes formes de violences faites à la femme à travers le monde d'une manière sommaire quoi?
Oui, on peut citer les violences physiques, les violences psychologiques, les violences économiques, l'on cite parfois parce que vous pouvez trouver que dans un couple, par exemple, un homme prive sa femme des moyens financiers pour qu'elle puisse survivre. On les appelle parfois des violences économiques parce qu'elle est privée des biens qui lui permettent de vivre. Elle peut subir les violences sexuelles. C'est la forme la plus connue que la femme subit aujourd'hui à travers le monde et particulièrement dans le contexte qui est le nôtre, surtout avec les conflits que nous avons connus à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a d'autres formes de violences qui, dans le contexte de la RDC, ne sont pas très mises en exergue et pourtant les femmes les vivent. C'est ainsi que, par exemple, vous allez constater qu'en RDC, les femmes subissent cette forme de violence qui est le mariage précoce. On n'en parle pas tellement et pourtant la jeune fille en est victime. Il y a le rapt, c'est-à-dire que le système où pour épouser une femme, l'homme la prend d'abord de force, la garde quelque part et quelque temps après, il ressurgit pour régulariser la situation après. Mais c'est légitimé dans certaines communautés en République démocratique du Congo parce que c'est une culture, c'est la tradition et on l'accepte comme telle. Il y a d'autres formes de violence dont on ne parle pas, les mariages forcés. Nous prenons des exemples où dans certaines familles, la fille n'a pas cette liberté de faire le choix. C'est-à-dire que ce sont les parents qui décident, ou soit le tuteur de la fille qui décide à sa place, pour qu'elle se marie à un âge où à travers le monde on reconnaît que c'est une violence. Et pourtant chez nous, ça se noie dans la culture et on trouve que c'est normal. Et pourtant c'est une violence que la fille est en train de subir et elle peut la subir à vie parce que psychologiquement elle ne sera jamais à l'aise.
Il y a la journée du 25 novembre pour lutter contre toutes ces violences. Alors, cette année, quel est le thème choisi?
Le thème de cette année, c'est égalité des sexes et autonomisation des femmes, engagement pour l'action. C'est le thème qui a été choisi, du moins pour nous à ONU Femmes, et sur lequel nous avons développé toute une gamme d'activités afin de soutenir le thème et le traduire en action, en plaidoyer, en mobilisation, donc de telle sorte que, au-delà de ce qui est théorique, le thème puisse être opérationnalisé de diverses manières.
Quelles sont ces activités prévues à travers le monde cette année, et particulièrement en RDC?
Effectivement, ça qu'on appelle le 16 jours d'actifice. Donc pendant 16 jours, les différentes organisations qui s'alignent dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre organisent des activités qui vont du plaidoyer à la sensibilisation en passant par des marches d'affichage. Il y a des posters peut-être que vous allez voir, mais tout tourne autour de ces thèmes et tout ce qui est développé c'est pour soutenir la campagne. Et chez nous en République démocratique du Congo par exemple, nous en tant qu'ONU Femmes, nous avons d'abord la visite de notre directrice exécutive qui s'inscrit en cette période de 16 jours d'activisme. C'est déjà une façon de célébrer avec les femmes congolaises et l'ensemble de la population congolaise ces 16 jours d'activisme. Nous avons prévu à cette occasion, par exemple en ce qui nous concerne, nous en tant qu'ONU Femmes, et dans le système des Nations Unies, qu'il y ait une caravane que les femmes et les organisations féminines que nous allons soutenir.
La caravane va se passer où?
Ici à Kinshasa. Elle va réunir les femmes de Kinshasa, les jeunes filles, les étudiants, les étudiantes, donc la jeunesse de manière générale, pour qu'ensemble nous puissions porter le message de la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, mais aussi intégrer un nouveau concept que nous voulons être approprié par l'ensemble de la population, qui est celui de la masculinité positive. Parce qu'avec la masculinité positive, nous pensons que de plus en plus, on lutterait ensemble, hommes et femmes, contre les violences dont les femmes sont victimes.
Oui, qu'est-ce que vous entendez par masculinité positive?
Masculinité positive, c'est cette masculinité qui va dans le sens contraire de la masculinité dominante. Parce que c'est la masculinité dominante qui a fait en sorte que on puisse assister à toutes les inégalités de sexe qui persistent jusqu'à ce jour. Donc, tout ce qui est considéré comme étant négatif par la masculinité dominante devrait être positif par la masculinité positive. Si la masculinité dominante que nous considérons comme négative a fait que la femme puisse être victime de violences sexuelles par la domination masculine négative, a fait que les femmes puissent subir les inégalités sociales à travers différentes cultures ou valeurs que nous défendons et qui contribuent à faire de la femme une victime, une femme qui n'est pas actrice de développement, une femme qui ne participe pas aux instances de prise de décision, une femme qui ne jouit pas de ses droits au niveau de sa communauté, au niveau de la famille, au niveau des différentes sphères de la vie sociale. Mais avec la masculinité positive et avec l'homme, nous pensons que nous pourrons faire changer les choses et changer la situation de la femme en travaillant sur les leviers positifs qui pourraient faire de l'homme un acteur de changement dans le sens de la promotion des droits reconnus à l'homme.
Est-ce que l'ONU Femmes RDC a un message particulier adressé aux femmes, aux filles congolaises?
ONU Femmes a un mot particulier à adresser aux filles, aux femmes, aux hommes et aux garçons congolais. Tous nous devons agir pour arriver à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. S'il n'y a pas égalité des sexes, si les femmes ne sont pas autonomisées, il y a un coût. Nous perdons en termes de développement. La femme est une actrice qui devrait intervenir dans le développement, mais elle ne peut pas intervenir si elle subit la violence. Elle ne peut pas intervenir si elle subit l'injustice. Elle ne peut pas intervenir si elle n'est pas suffisamment éduquée. Elle ne peut pas intervenir si elle n'est pas suffisamment autonomisée. Mais pour ça, nous disons, engageons-nous tous dans la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Et dans tout ce, je vois les hommes, les garçons, les femmes et les filles. Et je crois que dans ce sens, on aura une société sans violence et où il sera beau vivre pour les femmes et les filles de ce pays.
Madame Catherine Odimba, merci.
Je vous remercie.
Nouvelle de province, le mouvement des Congolais retournés du Burundi continue à s'observer dans le territoire d'Uvira. Depuis une semaine, le ASR les a identifiés dans les quartiers Mulongwe, Kasenga et Kavivira. D'après la Commission nationale pour les réfugiés, CNR Uvira, il y a 192 Congolais retournés du Burundi au total. Ils sont répartis dans 43 ménages, mais leurs conditions de vie restent déplorables à Uvira. Fiston Goma.
Certains parmi ces Congolais habitaient le quartier de Kamenge, d'autres Mutakura, d'autres encore le quartier Tshibitoke à Bujumbura au Burundi. La majorité sont des étudiants, des élèves et enseignants. Ils disent avoir fui l'insécurité grandissante dans leur quartier au Burundi, où des cas de tuerie ont été enregistrés. Depuis leur arrivée à Uvira, la plupart d'entre eux ont été reçus dans des familles d'accueil, mais leur alimentation pose problème. Ils attendent que la situation se normalise au Burundi avant d'y retourner. De son côté, le chef d'antenne de la CNR Uvira souligne que ces retournés congolais ne sont pas sous le mandat du ASR. Ce sont des personnes qui vivaient dans des conditions normales et régulières au Burundi et qui sont retournées dans leur pays. Christophe Migale affirme par contre que 73 autres Congolais retournés du Burundi au mois d'avril dernier ont été identifiés par le ASR. Ces réfugiés congolais avaient déserté le camp des réfugiés de Tshibitoke et de Kavumu au Burundi, craignant les menaces d'attaque de miliciens burundais Imbonerakure. Le ASR Uvira les a identifiés dans les villages de Ndunda, Rusabagi, Sassira et Lubiris dans la plaine de la Ruzizi. Pour l'instant, la même source indique que des discussions sont en cours entre le ASR Uvira et le ASR du Burundi, éventuellement pour désactiver ces Congolais de leur statut s'ils ne retournent pas au camp au Burundi. Uvira, Fiston Goma Mayabala, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Marthe Bossoandolé pour l'agence France Presse. Dans le territoire de Walikale, depuis quelques jours, la société civile fait part des combats et des occupations de certaines localités et villages par des FDLR et aussi ces combats avec les Maïmaï. Est-ce que la MONUSCO peut nous donner un bilan, du moins en termes de nombre de morts, par rapport à ce qui se passe dans le Walikale?
Question posée mercredi dernier à la conférence de presse des Nations Unies. Suivez maintenant la réponse du lieutenant-colonel Martin Mouzoun Kodjo, porte-parole militaire, qui intervient depuis Goma, complété par Félix Bass, porte-parole de la MONUSCO à partir de Kinshasa.
Depuis plus de deux semaines, il y a les groupes armés qui s'affrontent dans le territoire de Walikale. Il s'agit des FDLR et des différents groupes Maïmaï. Nous avons enregistré jusque-là des afflux de déplacements de population civile, soit vers Miriki où se trouve l'une de nos bases, ou vers Rufu où se trouve la base des FDC. Actuellement, nous suivons de près la situation. Nous ne sommes pas impliqués dans les groupes armés qui s'affrontent eux. Nous suivons la situation et conformément à notre mandat de protection des populations civiles, nous effectuons des patrouilles pour sécuriser les populations civiles dans la zone. Merci.
Juste pour ajouter aussi à la suite du colonel Martin que vous avez parfaitement raison de relever ce regain d'activisme des groupes armés dans le territoire de Walikale. Effectivement, il y a des affrontements qui sont récurrents entre aussi bien les FDLR et les FRDC, mais aussi les FDLR contre d'autres groupes Maïmaï qui essaiment la région, notamment contre le NDC Tcheka, mais aussi le NDC Rénovation de Guidon, qui, comme vous le savez, est un dissident du groupe Maïmaï Tcheka. Chose remarquable, nous avons vu aussi que entre Bouleoussa, Miriki, toute cette zone-là, nous avons vu que des combats se poursuivaient, mais que ce qu'il faut déplorer, c'est qu'il y a un impact sur les populations civiles qui sont obligées de se déplacer. Récemment encore, nous avons vu que les Maïmaï Yira et les FDLR s'affrontaient tous les jours pour le contrôle de cette zone-là, et la force de la MONUSCO avec les FRDC sont aussi sur le terrain pour protéger les populations civiles. Mais nous suivons de très près cette situation qui est très préoccupante, particulièrement dans le Walikale, mais aussi dans le Lubero, avec cet activisme des FDLR.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je m'appelle Mwamba Moubi Expedi, je suis marié et père. À propos de mon cursus scolaire, mes études primaires, je les ai commencées à l'école primaire Saint-Michel de Caballo avant d'aller les poursuivre à l'internat Saint-Louis de Gonzague à Lusaka dans le territoire de Moba. J'y arrive en troisième primaire et y passe 4 ans jusqu'à l'obtention de mon certificat d'études primaires. En 1971, je passe dans un autre internat de Moba, cette fois au collège Kaosé. Après la quatrième année littéraire, je quitte le collège Kaosé pour l'Institut Mwamba de Kongolo. C'est dans cette école que, en 1977, j'obtiens mon diplôme d'état en section littéraire, option philosophie latin. En 1996, j'entre à l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi, extension de Kalemie, pour y parfaire le français et aussi me frotter à la linguistique africaine. 6 mois plus tard, je me vois contraint d'abandonner. Voilà. Pour ce qui est de mon parcours professionnel, j'exerce aujourd'hui la fonction de journaliste, reporter et traducteur à Radio Okapi. J'ai été recruté le 27 février 2002, alors que la radio onusienne n'avait que 2 jours d'existence. D'abord journalier, je signerai mon premier contrat à durée déterminée le 1er avril 2002. Cela fait 13 ans et demi que je suis à Radio Okapi. J'arrive au bureau autour de 8h20. Je passe rapidement quelques coups de fil pour savoir ce qui se passe à Kalemie, mais aussi dans les 6 territoires de la province du Tanganyika, plus le territoire de Poueto dans le Haut-Katanga. À 8h30, nous nous retrouvons, mes 2 collègues et moi, autour de la table de rédaction pour discuter des sujets à proposer à la conférence téléphonique avec Kinshasa. L'après-midi, je le consacre à faire des traductions en Swahili, soit je me mets à préparer un magazine. J'effectue également en moyenne une mission par mois à l'intérieur de la province pour réaliser des reportages sur la vie sécuritaire et socio-économique des populations. À cette occasion, mon superviseur me charge également d'effectuer des séances de recyclage en faveur des journalistes des radios communautaires. En fait, mon entrée dans le journalisme remonte à 1997 et c'est à la RTNC Académie que j'ai fait mes premières armes. J'ai commencé comme animateur à la RTNC, ensuite je suis passé rédacteur, puis chef de programme et orientation, jusqu'en 2002, année de mon départ pour la MONUC. Bien avant cela, j'ai travaillé comme enseignant, de 1977 à 1984 à l'Institut Al-Fadjiri de Caballo. En 1984, je me retrouve sur la liste des enseignants frappés par la mesure d'assainissement décrétée par le gouvernement Kingo. En 1986, je réintègre l'enseignement avec une affectation à l'Institut FAS Maïto de Kalemie. J'y reste juste une année avant d'être transféré à l'Institut Pendane où je vais enseigner pendant 15 ans jusqu'à mon départ pour la MONUC. Pour ce qui est de ma nourriture préférée, un bon foufou avec du poisson frais, plus des légumes du genre amarante, feuilles de courge, m'arrange bien. En ce qui concerne le sport, quand j'étais à l'internat, je pratiquais le football et le tennis de table. À présent, je me contente de la marche à pied. Déjà chaque jour, dès que je saute du lit, je marche pendant une 40aine de minutes. En route vers le bureau, j'aime également marcher, d'autant que ma résidence se situe à peine 1 km du quartier général de la MONUSCO. La musique et la télé font également partie de mes loisirs. Je suis un amoureux également des plantes que je repique à gogo chez moi. Casanier, ce qualificatif me convient aussi.
Vous voulez en savoir quelque chose sur mes projets d'avenir après la MONUSCO, un projet culturel en vue, et aussi et surtout écrire. Je suis en train d'achever mon deuxième roman, le premier n'est pas encore publié. J'ai un peu de poésie dans mes tiroirs et peut-être même des souvenirs. Vous savez, plusieurs missions de reportage effectuées en Ituri, au Nord-Kivu, au Maniema et dans presque tout le Katanga, de brèves incursions à Kinshasa, les anecdotes ne peuvent donc pas me manquer. Merci.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Voilà, notez dans votre agenda à présent d'abord cette visite de la directrice exécutive de l'ONU Femmes en RDC du 1er au 4 décembre. Madame Funzi Lemlambo passera son séjour à Kinshasa et à Bukavu. Cette visite coïncide avec d'autres événements du calendrier des Nations Unies. À noter également 1er décembre, journée mondiale de la lutte contre le sida. 2 décembre, journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. 3 décembre, journée internationale des personnes vivant avec handicap. Enfin, 5 décembre, journée international des volontaires. Et voilà, c'est déjà la fin de votre magazine des Nations Unies que vous pouvez réécouter sur notre site internet, hein, vous tapez le www.radiocapi.net. Merci à Jean-Pierre et Lali Coco pour la coordination. Honoré Missenga et Bob Milandou qui étaient la mise en onde. Je suis Tina Salama. On vous retrouve avec le même plaisir le dimanche prochain à la même heure sur la même fréquence. A très bientôt et bon dimanche à tous.